σας. Καλησπέρα σε όλους και καλό μήνα. Bonsoir à tous et bienvenue sur IDFM dans IDLN, l'émission francophone des amoureux de la Grèce. Je m'appelle Hermione et nous sommes ensemble jusqu'à 19h comme chaque troisième mercredi du mois. Καλώς ήρθατε στις IDLN την εκπομπή για τους φίλους της Ελλάδας στο Παρίσι στους 98 FM και σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. Alors comme je le dis souvent en début d'émission, IDLN est là pour vous faire découvrir ou redécouvrir la Grèce, loin des clichés du Syrtaki ou de la Moussaka, dans une ambiance conviviale et fraîche. Alors justement, à propos de fraîcheur, le studio a rajeuni ce soir. Cette émission est enregistrée un peu en avance, alors d'abord pour cause de vacances de Pâques, mais surtout en raison d'invités un peu particuliers. Impossible de les faire venir tard dans la journée, en semaine ou tard la soirée. La moyenne d'âge n'a jamais été aussi basse ici dans les studios d'IDFM ou en tout cas dans IDLN. J'ai l'immense plaisir de recevoir ce soir pour vous quatre enfants qui vont faire vivre les émission en compagnie de notre invitée Joséphine Barbereau. Bonsoir.
Bonjour.
Joséphine.
Bonjour Hermione.
Joséphine, vous êtes à la tête de l'organisme Little.io qu'on va présenter dans quelques instants et vous avez accepté de faire avec moi une émission très spéciale. On accueille donc quatre enfants ce soir. On va les présenter du plus jeune au plus âgé. Bonsoir Milas, 5 ans. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Eol, 7 ans.
Bonjour.
Bonsoir Marion, 8 ans.
Bonsoir.
Et bonsoir Clément, 9 ans.
Bonsoir.
Alors, avec certains de vos prénoms, on a déjà un peu un pied dans la mythologie grecque, les enfants. Vous allez participer à un atelier aujourd'hui, un atelier qui sera mené par Joséphine, qui a pour vocation de faire découvrir des histoires, des personnages, des mythes à travers des œuvres d'art auprès du jeune public. Merci, mille merci d'avoir accepté cette invitation, Joséphine.
Merci Hermione de votre invitation, c'est une belle façon de mettre en lumière cette activité et je suis ravie d'être avec les enfants cet après-midi. Merci beaucoup.
Absolument sûre qu'on va passer un bon moment. Alors j'ai été ravie Joséphine quand vous m'avez soumis le nom du héros qui va nous accompagner dans ce voyage culturel. Est-ce qu'on peut le dévoiler tout de suite ?
Ah oui, avec plaisir.
Alors ce sera Héraclès. Alors nous sommes dans IDLN, dans une dynamique de thématiques autour des Jeux Olympiques depuis quelques mois, donc c'est parfait. Au programme de cette émission donc, Héraclès ou Hercule, hein, pour les Romains évidemment, exclusivement ce soir. D'abord grâce à vous Joséphine, on va commencer par présenter votre structure, puis je vous laisserai mener un atelier presque comme en vrai, on va dire, en l'adaptant un petit peu parce qu'on est à la radio évidemment. Et puis pour terminer, on aura le plaisir de diffuser un nouvel épisode du podcast La mythologie grecque, évidemment, sur Héraclès. Alors, parmi nos jeunes invités, est-ce que tout le monde connaît Hercule ou Héraclès, les enfants? Vous connaissez tous?
Oui.
Oui, hein, on est d'accord. Qu'est-ce que vous connaissez? Qui peut me dire ce qu'il connaît sur Héraclès, sur Hercule? Marion?
Les 12 travaux.
Ah, ben ça tombe bien. Les 12 travaux, tout le monde les connaît?
Oui.
Oui, super. Alors, parce que je vous ai déniché une petite chanson grecque, une petite chanson pour enfants qui parle justement des travaux d'Hercule. Alors, ça s'appelle « Η παιδική χοροδία του Δημήτρη Τυπάλβου, η άθλη του Ηρακλέους ». Donc, « η άθλη του Ηρακλέους », on entend le « athlète » un peu. Ce sont justement les travaux d'Hercule. On va écouter cette petite chanson pour introduire ce thème et puis on se retrouve juste après pour présenter Little.io et enfin pour entrer dans le vif du sujet. À tout de suite.
Ο μύθος πως ο Ηρακλής ήταν βαρβάτος και ταΐς είναι πολύ ανακριβής και ιστορικός επιβλαβής.
Το θηρίο, το Λερναίο, που είχε κεφάλια εκατό, ήτανε φαίνεται μοιραίο να ζήσει το εκατοστό.
Από το ένα βγήκαν δυο και από τα δυο σαράντα δυο κι εγώ ακόμα δεν μπορώ από τίποτα.
πατρίδα μαραζώνει.
Το λεοντάρι της Νεμαίας είναι ακόμα ζωντανό. Το Ιδονίκος κι ο Αθέας να βοσκεί στο βοτανικό.
Από το ένα βγήκαν δυο κι από τα δυο σαράντα δυο. Κι εγώ ακόμα δεν μπορώ από την πόρτα μου να βγω. Κι εγώ ακόμα δεν μπορώ από την πόρτα μου να βγω.
Voilà, on est dans l'ambiance, hein, je crois.
Absolument, magnifique.
C'est une découverte pour vous, Joséphine.
Tout à fait.
Alors, Joséphine, vous êtes donc fondatrice de l'Italio, qui est un organisme qui a pour marque de fabrique de faire découvrir la culture aux enfants à travers les œuvres d'art.
Oui, absolument, avec comme fil conducteur les grands héros et les grandes héroïnes de la mythologie, mais aussi de l'histoire, des religions, des héros du patrimoine et des héros littéraires. Donc, depuis Héraclès dont nous allons parler, jusque Don Quichotte, Scheherazade, Jean de La Fontaine, ou pourquoi pas la Tour Eiffel ou les Jeux Olympiques. Voilà, tous les sujets se prêtent parfaitement à cette application-là. Et l'idée est donc de présenter, de raconter les histoires de ces grands héros et d'offrir aux enfants la possibilité de les découvrir à travers le regard des artistes. Moi, j'ai ce coutume de dire que les artistes, ils voient des choses que nous ne voyons pas. Et en nous montrant l'interprétation qu'ils ont d'un mythe, eh bien, ils nous permettent de mieux le voir, de mieux le comprendre et de l'éclairer et de cheminer comme ça dans ces grandes histoires qui nous accompagnent depuis des millénaires.
Alors, vous avez toute votre place, évidemment, ici, parce que dans tous les ateliers que vous proposez, évidemment, les héros de la mythologie grecque ont une importance.
Une très belle place.
Voilà, une très belle place, mais effectivement, c'est très varié aussi. On en parlera en fin d'émission. Vous proposez aussi d'autres thématiques. Alors, en tant que maman observatrice, je dirais, parce que moi, en tant que maman, j'ai pas le droit de participer à vos ateliers, mais j'y ai emmené mes enfants. Je confirme qu'on passe toujours un très bon moment, et même en tant qu'adulte, en plus, on apprend plein de choses.
Oui, c'est vrai. Donc, oui, souvent, ce sont justement des ateliers qui sont proposés aux familles, les parents et les enfants, parce que c'est un vrai beau moment de partage aussi.
Mais ils s'adressent quand même aux enfants en particulier.
Oui, tout à fait. Et moi-même, je m'adresse aux enfants et ce sont les enfants qui ont la parole. Les parents sont là, comme vous le disiez, Hermione, en observateur. Mais à la fin, je sais qu'il y a de belles discussions qui germent pendant l'atelier, donc c'est joli.
Alors, votre cœur de cible, c'est plutôt les 6-12 ans. Vous pouvez aller même un petit peu plus jeune encore. Comment ça se passe?
Oui, absolument. On a deux formules d'ateliers, les ateliers pour les 4-5 ans et puis les ateliers pour les 6-13 ans, en effet, qui durent un petit peu plus longtemps. Moi, j'ai coutume de dire que la culture, c'est comme une marche en montagne. On peut tous aller au même endroit, mais pas à la même allure. Mmh. Et donc, on prend un petit peu plus de temps avec les plus petits pour qu'ils aient le temps aussi de s'exprimer. Et puis, avec les plus grands, on va un petit peu plus vite. Voilà.
Donc là, on a entre 5 et 9 années d'expérience autour de la table. Alors, on va s'adapter, on va peut-être faire un petit mix de tout ça. Est-ce que vous pouvez, Joséphine, nous dévoiler un peu les adaptations que vous avez menées pour qu'on puisse faire cet atelier à la radio, sachant qu'on a donc quand même présenté aux auditeurs qui le souhaitaient cette œuvre dont on va parler, l'œuvre unique, hein, si je comprends bien, pour cet atelier.
Oui, absolument. J'ai choisi en effet une œuvre de l'histoire qui illustre un épisode de l'histoire d'Héraclès, qui n'est pas un épisode le plus connu parce que j'imaginais bien en effet que les enfants aujourd'hui connaîtraient déjà le mythe d'Hercule et notamment les 12 travaux, mais on va s'arrêter sur un épisode de la jeunesse d'Héraclès et donc ça c'est tout à fait l'illustration de ce qui se passe en atelier autour d'une œuvre peinte, même si on aborde aussi en atelier très souvent la musique ou la danse ou d'autres formes d'art, autour d'une peinture, on va papoter tout simplement et se dire qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on comprend. Et puis moi, j'essaie de guider la discussion pour qu'en effet, à la fin, les enfants comprennent ce que signifie cet épisode de la vie d'Héraclès.
Alors, est-ce que vous êtes prêts, les enfants? à discuter avec Joséphine de cette œuvre. Vous avez chacun une impression, une belle image de cette œuvre devant vous. On va commencer par mettre un petit peu de musique pour se mettre dans l'ambiance. J'adore quand les invités font le travail à ma place. Vous avez choisi de la musique pour nous accompagner. On va écouter le premier morceau. Donc c'est une cantate de Bach que vous avez choisi.
Oui, tout à fait. Une cantate de Bach avec un sujet profane puisqu'il s'agit justement de cet épisode de la jeunesse d'Héraclès.
Alors, on va commencer par l'écouter et puis on revient juste après pour rentrer dans le vif du sujet. Joséphine, je vous laisse la parole. C'est parti pour cet atelier autour d'Héraclès.
Merci beaucoup, Hermione. Alors, en effet, vous avez les enfants devant les yeux, une image qui est la reproduction d'un tableau. Alors, peut-être qu'il y a déjà des choses, à mon avis, je suis même à peu près sûre, que vous avez reconnues dans ce tableau. Est-ce que quelqu'un a reconnu l'un des personnages ? Clément ?
J'ai reconnu Hercule au milieu.
Tu as reconnu Hercule ou Héraclès au milieu du tableau. Bravo, je te félicite. Qu'est-ce qui t'a permis de le reconnaître ? Est-ce qu'il y a un indice dans le tableau qui t'a aidé ?
Il a un bout de bois dans la main.
Bravo, excellent. C'est ce que tu allais dire aussi, Éole ?
Oui.
Ouais, excellent, bravo, vous avez tout à
c'est
fait raison.
Il a des gros muscles.
Il a des gros muscles, ça c'est vrai. Et Héraclès, vous le savez, c'est un héros très fort, très puissant, avec un corps très musclé. Et puis, il a dans la main, en effet, un énorme bout de bois qui va le suivre pendant toutes ses aventures. Ce bout de bois, justement, à ce moment de l'histoire, Héraclès vient juste de le tailler. En fait, il a tout simplement coupé la branche d'un arbre dans la forêt. Vous imaginez ça ? Il faut déjà un petit peu de force, quand même, pour couper la branche d'un arbre. Et il a eu besoin de couper la branche de cet arbre parce qu'il était tout seul dans cette forêt et qu'il avait peut-être un peu peur et qu'il avait besoin de quelque chose, d'une arme, pour le protéger, peut-être contre les bêtes sauvages qui risquaient de l'attaquer pendant la nuit. Alors que faisait-il donc tout seul dans cette forêt ? Vous voulez que je vous raconte ?
Oui.
Héraclès, quand il était un enfant, vous savez qu'il avait un père illustre, Héraclès. Qu'est-ce qu'on raconte dans la mythologie ? Vous savez qui était le père d'Héraclès ? Oui, Marion ?
C'était Zeus.
C'était Zeus. Zeus qui est le roi des dieux, le plus important des dieux de l'Olympe. Et alors, Héraclès avait hérité de son père une force prodigieuse, n'est-ce pas ? Et même quand il était un tout petit enfant, il était déjà très fort. Peut-être que vous connaissez un des épisodes très connus, celui-ci de l'enfance d'Héraclès. À un moment donné, quand il était encore un tout petit bébé dans son berceau, qu'est-ce qu'il a fait ? Éole ?
Il a tué un serpent.
Exactement, il a tué un serpent qui était dans son berceau avec ses toutes petites mains de tout petit bébé. Alors évidemment, on imagine qu'il avait beaucoup de force. Et puis en grandissant, voilà ce qui s'est passé un jour. Héraclès prenait un cours de musique et il n'avait pas très bien travaillé sa musique. Alors son professeur était un peu fâché à côté de lui et il lui a donné une toute petite tape, mais vraiment, il l'a à peine poussé son épaule. Et Héraclès, il s'est senti vexé de ce petit geste de son prof de musique, alors il a poussé lui aussi le professeur de musique. Mais comme il ne savait pas encore mesurer sa force, le professeur de musique est tombé, bam, raide, mort par terre. Héraclès ne s'était même pas rendu compte qu'il tapait si fort qu'il pouvait renverser son professeur de musique. Alors, les parents d'Héraclès se sont fâchés et lui ont dit « Mon petit, il va falloir que tu apprennes à mesurer ta force et à l'employer d'une bonne façon. Parce que si tu es fort et que tu fais n'importe quoi, eh bien c'est une catastrophe. Et pour que tu réfléchisses à cela, nous allons t'envoyer dans la forêt où tu vas rester seul pendant quelque temps, le temps de penser à ce que tu pourrais faire avec cette force prodigieuse. Ça vous est déjà arrivé à vous d'être puni ?
Non.
Oui.
Oui.
On n'a pas l'unanimité.
D'accord. Parfois, ça aide à réfléchir, non ?
Oui.
Ouais, hein ? Parfois, on a besoin d'être tout seul pour réfléchir à quelque chose. Quand on a fait quelque chose qui n'était pas formidable, ben, être un peu tout seul pour y penser, ça peut aider, non ? À dépasser ce qui s'est passé, à traverser cette difficulté et puis à devenir un petit peu autrement la fois prochaine, n'est-ce pas ?
Oui. Peut-être pas dans une forêt, mais c'est vrai que dans une chambre ou...
Ouais, là, Hercule, quand même, tout seul dans la forêt, pendant la nuit, avec des animaux sauvages autour. Hein. C'était sévère, hein, la mythologie. Bon, en tout cas, le voilà qui se trouve dans la forêt, seul. Et puis, il s'assied pour réfléchir. Et c'est exactement ce que vous voyez sur le tableau que vous avez sous les yeux. Il est assis, il est au milieu du tableau, et il nous regarde, n'est-ce pas ? À quoi il pense, à votre avis ? Qu'est-ce que vous diriez quand vous regardez son regard ? Est-ce que vous auriez l'idée de quoi il est en train de penser, Hercule ? S'il y avait une bulle qui sortait de sa tête, oui, Marion ?
Comment mesurer sa force ?
Comment est-ce que je pourrais mesurer ma force ? Bravo, très bien, très bonne idée. D'autres idées ? Peut-être qu'en effet, il est en train de penser à ça. Alors, autour de lui, ouais, Éole ?
Il réfléchit à comment se défendre.
Aussi, bien sûr, il réfléchit à comment se défendre. Et sa force, elle va pouvoir l'aider aussi à se défendre, n'est-ce pas ? Comment est-ce qu'il est, Hercule ? Qu'est-ce qu'il voudrait nous le décrire pour les gens qui n'ont pas l'image sous les yeux ? Marion, tu veux bien ?
Triste.
Il a l'air un peu triste, il est pensif. Clément, tu as d'autres choses à dire ?
Il est assis sur un rocher.
Excellent, bravo. Oui, Éole ?
Il a peur.
Il a l'air d'avoir un peu peur, peut-être, en effet. Tout à fait. Il a l'air un peu indécis. Il ne sait pas très bien ce qu'il doit faire. Mais alors, autour de lui, il y a deux femmes, n'est-ce pas ?
Oui.
Qui est-ce qui veut nous les décrire ? Tu veux, Marion ?
Il y a une femme.
Tu commences par laquelle ?
La femme blanche.
Celle qui est à droite du tableau. Alors, allons-y.
Elle est toute nue avec une robe toute blanche.
Bravo.
Un peu comme des nuages.
Oui, excellent.
Et la femme à côté d'elle, elle est bleue et rouge. Et on dirait qu'elle est en train de danser.
Très bien, bravo, excellent. Vous avez d'autres choses à dire ? La femme sur la droite du tableau, en effet, elle est avec une robe qui est presque transparente. Et on dirait que c'est à peine plus épais qu'un nuage. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Elle nous regarde ou elle nous tourne le dos ? Oui ?
Elle nous tourne le dos.
Elle nous tourne le dos. Elle ne nous regarde pas et du coup, on voit un peu ses fesses presque, tellement la robe est un peu transparente. Et qu'est-ce qu'elle a l'air de dire à Héraclès, à votre avis ? Ouais, Éole ?
Je t'aime.
Oui, tu as tout à fait raison, tu as très bien senti ça. Elle a l'air de lui dire « je t'aime ». Et puis, vous avez vu avec ses mains, elle a l'air de l'emmener sur un chemin, de lui montrer une direction. Et Héraclès, il a l'air de dire quoi, Milas ?
Rapproche-toi bien du micro, Milas, pour qu'on t'entende. Qu'est-ce qu'il a l'air de dire ?
Il a l'air de trouver qu'elle est sympathique ?
Non.
Ah, d'accord. Alors, en tout cas, elle a l'air de vouloir l'emmener quelque part, n'est-ce pas ?
Ouais. Oui.
Qu'est-ce que vous voyez sur le côté du tableau ? Est-ce que vous arrivez à deviner les petits objets qui ont été peints par l'artiste ? Oui, Éole ?
Une tête décapitée.
Ah, en réalité, c'est... Clément, t'as une idée ?
C'est un masque.
Un masque, exactement. Un masque pour se déguiser. Un masque pour jouer. Et est-ce que vous voyez encore d'autres choses ?
Oui.
Dans le coin du tableau ? Oui ? Éole, vas-y.
Un bac.
Une batte, tu crois ? Peut-être ? Peut-être que c'est un peu coupé, Clément ? T'as une idée ?
Il y a un tambourin.
Oui, en effet, on voit un tambourin. Et puis, Marion, tu vois quelque chose ?
Tout en bas du tambourin, il y a des cartes.
Oui, des cartes à jouer. Mmh. Un jeu de cartes à jouer. Et à côté du tambourin, on voit le côté d'un violon, d'un instrument de musique. Donc là, on a le jeu avec le théâtre, les cartes à jouer et la musique. Et puis, le petit chemin qu'elle montre, c'est un petit chemin qui est plein de petites fleurs, n'est-ce pas ?
Oui.
Il a l'air agréable, ce petit chemin à suivre, non ?
Oui.
Oui, Marion ?
C'est le chemin de la joie.
C'est le chemin de la joie. C'est le chemin... de la joie et même c'est le chemin du plaisir, le chemin du jeu. Cette femme que nous voyons là, elle incarne une idée, elle représente une idée qui s'appelle la volupté. C'est un drôle de mot ça, hein ? Vous l'avez déjà entendu ou pas ?
Non.
En fait, la volupté, ça veut dire le plaisir. Voilà. Par exemple, si on mange une glace au chocolat avec par-dessus de la chantilly et puis des trucs un peu crunchy, des noisettes ou ce qu'on voudra, et puis des chamallows par-dessus et encore un peu de chantilly, alors là, c'est une volupté totale, n'est-ce pas ?
Oui.
Ouais. C'est peut-être un peu sucré.
On voit un grand sourire dans le studio que les auditeurs ne peuvent pas voir.
Alors, en tout cas, c'est ça qu'elle lui propose, cette femme légèrement vêtue, coiffée joliment, et puis qui l'emmène vers ce petit chemin de fleurs, de masques pour jouer au théâtre, de cartes et d'instruments de musique. Et alors, de l'autre côté, Marion, tu avais commencé à la décrire. L'autre femme, Clément, tu veux poursuivre ?
J'aime bien, elle est en bleu et en rouge.
Ah.
Ouais. Et elle pointe un chemin, pareil.
Oui.
Et tout au bout du chemin, il y a un cheval.
Un cheval qui a
des ailes.
Ouais, bravo. Un cheval ailé. Vous connaissez le nom de ce cheval ailé dans la mythologie grecque ?
Un Pégase.
Bravo, Emilas, exactement. C'est Pégase, le cheval des grands héros. Il n'y a que les grands héros qui peuvent monter sur le dos de ce cheval, n'est-ce pas ?
Oui.
Alors, elle lui montre ce Pégase. Oui, Marion ?
En fait, elle dit, tu devras monter un chemin très difficile, mais après, tu aimeras le cadeau qui sera en haut.
Exactement. Très fortiche. Bravo, Marion. Exactement. Elle lui montre un chemin difficile. Pourquoi est-ce qu'il a l'air difficile, ce chemin, particulièrement ? Oui ?
Parce qu'il est sur une montagne.
Oui, ça monte. Vous avez déjà marché en montagne ?
Oui.
C'est facile ou c'est difficile ?
Facile.
C'est vrai ?
Il y a un peu d'escalier, des trucs comme ça, d'escalade.
Et un chemin comme ça, t'as vu, il n'y a pas d'ombre, hein. Il n'y a pas d'arbre sur le chemin, il n'y a que de la pierre.
On peut imaginer que c'est en Grèce qu'il fait chaud.
Ouais, ça ne va pas être facile quand même pour Héraclès de monter jusqu'en haut, n'est-ce pas ? Mais quand on marche en montagne et que c'est difficile et qu'on dit quand est-ce qu'on arrive, et qu'on arrive à la fin, tout en haut de la montagne, comment est-ce qu'on se sent ?
On est très content,
on est fier de soi. Et puis, on a beaucoup de plaisir aussi, finalement. On a presque autant de plaisir que si on allait au théâtre, ou si on écoutait de la musique, ou si on jouait aux cartes à jouer. Sauf que ce plaisir, on l'a gagné par notre effort. Et c'est exactement ce que cette femme est en train d'expliquer à Héraclès. Et cette femme, on l'appelle la vertu. Dites-moi ça, la vertu.
La vertu.
Et la volupté ?
La volupté.
Voilà, vous connaissez le nom des deux personnages de ce tableau autour d'Héraclès. La vertu, eh ben c'est exactement ce qu'on a dit. C'est du courage, c'est une force qu'on va employer pour faire quelque chose de bien, pour devenir un héros et pour pouvoir monter sur le cheval Pégase. Pas mal, n'est-ce pas ?
Oui.
Alors, vous m'avez parlé de la robe de la vertu. Elle est quelle couleur, tu disais, Marion ?
Bleu et rouge, et c'est la couleur de la vertu.
Alors, bleu et rouge, c'est la couleur de quelque chose d'important. Le bleu, on dit parfois que c'est la couleur de quoi ? Clément, t'as une idée ?
De la tristesse.
De la tristesse. Et vous m'avez dit que Héraclès, il avait l'air un peu triste, n'est-ce pas ?
Oui.
Est-ce que vous connaissez une expression qui exprime une émotion et qui parle du bleu ? On dit avoir une peur bleue. Vous connaissez cette expression ?
Oui.
Ouais. Le bleu, ça peut être aussi la couleur de la peur. Oui, Marion ?
Le rouge, c'est la couleur de la joie ?
C'est la couleur de la joie et puis c'est aussi une couleur très forte. Quand tu mets du rouge, tu vois que ça. On est d'accord ?
Oui.
Voilà, le rouge, c'est une couleur très, 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 très forte. Donc finalement, cette vertu, elle est habillée avec une robe bleue qui montre que peut-être Héraclès ou nous, on peut avoir peur dans certaines situations. Mais on est capable de mettre une belle cape rouge au-dessus de nos peurs pour faire le bien, pour avoir le courage de monter cette montagne et de devenir des héros. C'est pas mal, non ?
Oui.
Ça rassure de l'avoir comme ça avec sa belle cape rouge. On est d'accord, hein ? Ouais, ça vous donne envie ?
Oui.
Et est-ce que ça vous fait penser à autre chose, quelqu'un qui serait habillé en bleu avec une cape rouge ? Ah, oui ?
Superman ?
Bravo, exactement. Superman, il est habillé en bleu et en rouge. C'est vraiment la couleur des super-héros, le bleu et le rouge. Parce que parfois, ils ont peur. Parfois, c'est difficile. Parfois, ils se sentent tristes aussi de voir qu'il y a des problèmes sur la Terre. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils mettent leur cape rouge, ils prennent leur force, leur courage et en avant, vers la vertu, pour réussir à faire le bien. Pas mal, n'est-ce pas ?
Oui.
Et voilà ce que nous raconte ce magnifique tableau. C'est un tableau qui a été peint il y a 400 ans, vous imaginez ? Alors, à votre avis, il a choisi quel chemin, Héraclès ? Alors, on va faire un vote. Hein. Ouais. Qui pense qu'il a choisi le chemin de la volupté, le chemin du plaisir ? Celui de la jeune fille en blanc avec la robe transparente, d'accord. Donc, on a Marion qui lève la main. Éole, tu lèves la main aussi ou pas ?
Non.
Non, ok. Et qui pense qu'il a choisi le chemin de la vertu avec son courage et son chemin difficile à monter ? Et on a Milas, Clément et Éole. Eh bien, il a choisi le chemin de la vertu. Il est courageux, hein ? Mais moi, j'aurais peut-être choisi l'autre. Et vous, vous auriez choisi lequel ?
La vertu.
Tu aurais choisi la vertu, courageux aussi, bravo, Éole. Toi aussi, Marion, la vertu, très
la
bien.
La vertu.
La vertu, Milas.
La vertu.
Waouh, mais vous êtes tellement courageux. Alors, vous voulez une bonne nouvelle ?
Oui.
Dans la vraie vie, vous avez le droit de choisir les deux chemins en même temps. C'est parfaitement possible d'agir avec beaucoup de courage pour faire quelque chose de bien et en même temps de se faire super plaisir avec une grande glace au chocolat avec plein de chantilly. On a le droit dans la vraie vie. Mais Hercule, il fallait qu'il choisisse. Et en effet, il a choisi la voie de la vertu. Et c'est aussi ce que nous racontait la musique qu'on a entendue tout à l'heure, qui était une musique qui avait été écrite par Jean-Sébastien Bach, qui est un grand compositeur de musique. Et alors cette musique, elle a une histoire particulière que je vais vous raconter. Il y avait un petit prince de Saxe dont le papa adorait la musique de Jean-Sébastien Bach. Et un jour, le prince de Saxe a fêté ses 11 ans. Tu vois, Clément y est presque. Mmh. Et pour ses 11 ans, il a reçu comme cadeau une chanson de Jean-Sébastien Bach. Ce qui est pas mal, hein, parce que c'était quand même le plus grand musicien de son temps. C'est comme si, je sais pas, de qui vous êtes fan en musique. De qui vous êtes fan en musique, ouais.
Mozart.
Oh. Alors, quelqu'un de vivant, Marion ?
Loan.
Loan, eh ben voilà, imagine que pour ton anniversaire, tes parents, ils vont t'offrir une chanson spécialement écrite pour toi, chantée par Loan. Ça serait incroyable,
ça
serait
non chouette, hein.
Eh ben le prince de Saxe, c'est ça qu'il a reçu comme cadeau. Et cette chanson de Jean-Sébastien Bach, on appelle ça une cantate, eh bien, elle raconte l'histoire d'Héraclès qui doit choisir entre ces deux chemins. Parce que le petit prince de Saxe, à 11 ans, il était au milieu du chemin de sa vie. Il était en train de décider s'il allait être assez sage et courageux pour choisir la vertu ou si, au contraire, il voulait rester du côté des plaisirs faciles et de la volupté. Et il a choisi la vertu.
Alors, on peut écouter un autre extrait de cette cantate, si vous voulez bien.
Avec grand plaisir.
Alors, il s'agit de l'air numéro 3 du Schlafe.
Voilà, c'est donc la volupté qui va chanter pour Hercule et qui va essayer de lui dire « Viens près de moi, la vie sera facile, tu pourras dormir et rêver. » Et vous allez me dire si vous sentez ça dans la musique qu'on entend.
Alors, on écoute ça tout de suite. dans IDLN sur IDFM si vous nous rejoignez. Je suis en compagnie de Joséphine Barbereau, fondatrice de Little IO, qui a pour motivation, pour voilà, bonheur.
Mission.
Pour mission, voilà, de faire découvrir l'art aux jeunes enfants. Donc on est aussi en présence de 4 enfants âgés de 5 à 9 ans ici dans les studios. On vient de décrypter une œuvre, une peinture pour voilà, découvrir un peu plus le personnage d'Héraclès. Et hors antenne, pendant qu'on écoutait ce bel extrait d'une cantate de Bach, les enfants avaient tous des questions à vous poser, Joséphine. Alors est-ce qu'on pourrait prendre encore quelques minutes pour y répondre?
Avec grand plaisir. Alors je crois que Milas, tu avais une question.
C'était quoi ta question,
sur quelle partie
Milas
du tableau?
Parle bien à côté du micro, Milas. Vas-y, dis-nous.
Au fond.
Mm-hmm. Oui. Alors, c'était quoi ta question?
Dans le fond, qu'est-ce qu'on voit? En haut, c'est ça?
Non.
Ah, alors?
En bas, sur le fond.
Oui.
Pourquoi les nuages touchent la mer?
Ah, on voit en effet des nuages sur le ciel bleu, dans le fond du tableau. Alors, peut-être que... Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? On peut imaginer peut-être que dans le ciel qui attend Hercule, oui, Éole.
Il y a Zeus, mm-hmm, et qu'il y a la mer juste à côté.
Peut-être que c'est une évocation en effet de Zeus et des dieux de l'Olympe dont on peut imaginer qu'ils vivaient dans les nuages. Et puis on peut aussi imaginer que le ciel de la vie d'Hercule, d'Héraclès, ben, il ne va pas être tout bleu-bleu, hein. Vous êtes d'accord avec ça? Qu'est-ce qu'il attend, Héraclès, là, une fois qu'il aura fait le bon choix, qu'il aura choisi la vertu? Vous savez la suite de l'histoire, oui?
De devenir un héros.
Eh ouais, de devenir un héros en combattant des monstres, des créatures féroces, pendant 12 épreuves très difficiles. Donc c'est vrai que si le peintre avait mis un joli petit ciel bleu à côté du chemin de la vertu, de cette grande montagne à gravir, on n'y aurait pas vraiment cru, parce qu'il va y avoir des nuages dans la vie d'Héraclès, ça c'est sûr. Mais d'un autre côté, derrière les nuages, on voit très bien le ciel qui est bleu. Alors que du côté de la volupté dans le tableau, est-ce qu'on voit le ciel?
Non.
Le ciel est caché par les arbres, et par des arbres qui ont un feuillage très dense, et ça donne un côté un peu sombre à ce côté du tableau. Tandis que de l'autre côté, on voit bien qu'il y a quand même du ciel bleu derrière les nuages. Donc on voit aussi que c'est peut-être en effet une autre façon d'attirer Héraclès du bon côté.
Alors, merci Milas pour cette question.
Ouais, merci beaucoup. Toi, tu avais une question, Éole, à propos d'un personnage dont on n'a pas parlé, c'est ça?
Oui.
Oui. Alors comment il est ce personnage? Tu peux nous le décrire?
Il a des gros muscles.
Oui, bravo. Est-ce qu'il tient quelque chose?
Il tient un bout de carton.
Exact, bravo.
Et il a quelque chose derrière son dos de rouge.
Oui, très bien. Excellent. Clément?
Il a une tresse de laurier sur la tête.
Bravo. Il a une couronne de feuillage sur la tête. Peut-être et sans doute, ce sont des lauriers, tu as tout à fait raison. Et dans la main, à vrai dire, c'est un bout de carton qui cache, ça doit être la couverture d'un livre. Vous le voyez, le livre?
Oui.
Et ce monsieur qui tient, qui a une couronne et puis qui a aussi un bandeau dans les cheveux avec le nœud rouge derrière la tête. Vous savez que les grands héros, que ce soit aux Jeux Olympiques, dont vous avez déjà un peu parlé, ou dans d'autres circonstances, les grands héros étaient récompensés par un bandeau qu'ils portaient sur la tête, comme un serre-tête. Peut-être que c'est ce bandeau de héros qu'ils portent. Et la couronne, vous savez ce qu'elle signifie? Ce qu'elle symbolise? La couronne de feuillage, Clément, tu as une idée?
Bah, les empereurs romains, avant, ils avaient des tresses de laurier.
Excellent, bravo. Par exemple, Jules César. Ouais. Donc c'est aussi une couronne qui marque, qui est portée par ceux qui sont victorieux, n'est-ce pas? Puisque Jules César, il portait cette couronne quand il rentrait des grandes conquêtes. Puis il y en a d'autres, hein, qui portaient cette couronne, par exemple Napoléon, Bonaparte. Il se faisait très souvent représenter avec une couronne lui aussi, après ses grandes conquêtes. Et la couronne, eh bien, c'est aussi une récompense qu'on donnait aux athlètes. Dans l'Antiquité, les athlètes, c'était les sportifs qui mettaient toute leur force et tout leur courage pour essayer d'être meilleurs que eux-mêmes et meilleurs que les autres. Et quand ils gagnaient l'épreuve de course ou de lutte ou de saut, on leur donnait une couronne et un ruban rouge. Donc, cet homme que nous voyons ici, on sait qu'il a fait preuve de courage et qu'il a mis toute sa force au service d'une victoire. Et comme il lit un livre, à votre avis, c'est le signe de quoi, ça? Qu'est-ce que ça pourrait être?
La littérature.
Oui, bravo Clément, la littérature. Qui est-ce qui lit des livres? Vous en lisez, vous, des livres?
Oui.
Oui, vous aimez ça?
Ça va.
D'accord, ok. Eh bien, on dit souvent que ce sont les gens très sages qui lisent des livres, ou que, en tout cas, la lecture rend sage, et la lecture donne des connaissances. Vous êtes d'accord avec ça?
Oui.
Bah oui, on a des livres à l'école, hein, par exemple, en effet. Et dans les livres, bah, y a plein d'informations qu'on ne connaissait pas, et puis qu'on découvre et qu'on apprend. Et bah, cet homme, peut-être qu'il symbolise aussi la connaissance. Et pour avoir la connaissance, et pour avoir la victoire, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que ça demande? Est-ce que c'est facile, Marion?
Il faut être sage.
Oui, très bien.
Être fort.
Être fort et faire des efforts. C'est pas facile, hein, d'aller apprendre. C'est pas facile d'ouvrir un livre et de le lire en entier. Et parfois, on n'est pas très intéressé, mais il faut quand même aller au bout. Et ben voilà, cet homme, c'est ça qu'il symbolise aussi. L'effort qu'il va falloir produire pour aller jusqu'à la victoire, jusqu'à la couronne de feuillage, jusqu'au ruban dans les cheveux. Et puis l'effort qu'il faut faire aussi pour acquérir la connaissance dans les livres, par exemple. Voilà. Et puis, Clément, toi, tu avais une question, il me semble, sur quelque chose qui était au milieu du tableau.
Bien. Pourquoi il y a un palmier alors que nous sommes dans une forêt?
Bravo. Ça, c'est une bonne question. En plus, ce palmier, si on regarde le peintre de ce tableau, il s'appelle Annibale Carracci. Je vous ai pas donné son nom. En italien, on l'appelle Annibale Carracci. Vous n'êtes pas du tout obligé de vous souvenir de son nom. Il vivait il y a 400 ans à peu près. Et il a fait un choix bien particulier. Cet arbre, il l'a mis en plein milieu du tableau et juste au-dessus d'Héraclès. Comme si l'arbre, le tronc du palmier, coupait le tableau en deux. Puisqu'il a le choix entre deux choses, Héraclès. Donc là, c'est bien délimité. Et puis, le palmier, vous savez aussi... Oui, Marion, tu veux dire quelque chose?
Il est illuminé.
Il est, pardon?
Illuminé.
Il est illuminé, il a l'air en effet illuminé. Les feuilles du palmier, vous savez comment ça s'appelle la feuille du palmier? C'est comme ce qu'on met au bout des pieds pour aller nager dans la mer profonde.
Les palmes.
Une palme, exactement. Et vous connaissez un festival de cinéma où on reçoit une récompense qui s'appelle la palme d'or? Eh bien, il y a un festival de cinéma où ceux qui gagnent, le meilleur film, le meilleur acteur, on leur remet pas une médaille, on leur remet pas une couronne sur la tête, on leur met pas un ruban, on leur offre une palme, qui en fait est une sculpture qui représente une palme.
En or.
Exactement. Et la palme, eh ben c'est aussi la récompense des héros. Donc la présence de ce palmier dans le tableau, tu vois, c'était une bonne question, tu as senti que ça voulait dire quelque chose, Clément. Eh bien, la présence de ce palmier, elle nous montre aussi que Hercule va devenir un héros.
Voilà, c'est passionnant tout ça, Joséphine. On pourrait vous écouter des heures et des heures et des heures. Est-ce qu'on a le temps de faire une petite chanson? Je crois que vous aimez bien faire des petites chansons. Il
oui.
nous reste 4-5 minutes. Est-ce que c'est possible?
C'est absolument possible.
Parfait.
Le principe, en effet, c'est que chaque petit atelier, chaque héros a sa propre petite chanson, une ritournelle qui permet aux enfants de se souvenir des grands épisodes de l'histoire et des noms des personnages. Alors la chanson, je vais vous apprendre rapidement l'air. La 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 la. Ça va? Alors on va chanter fort, comme ça va aider Milas qui découvre le texte. Et on y va.
Héraclès puissant héros, grâce à ses douze travaux, sur terre a fait régner pour son père Zeus l'harmonie, la paix. Fort, courageux, rusé, il combat vaillamment, la vertu l'a guidé, quel est Dieu glorieux et puissant.
Eh bien, je vous félicite. Bravo. Il y avait un mot difficile, c'était vaillamment. Ça veut dire avec courage. Voilà.
Un grand merci, Joséphine. On a été transportés là, dans un musée, dans une école, un peu de tout ça. C'était vraiment passionnant. Les enfants, j'espère que vous avez bien aimé. Vous avez appris plein de choses aussi. Oui, oui hein, on est d'accord. Alors Joséphine, du coup, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire où on peut vous retrouver? Parce qu'on a envie d'en faire profiter à tout le monde.
Joséphine,
et puis voir
moi un j'ai aussi une autre question.
Ah, dis-moi Milas.
Lequel? Ici, la tête qui est là, c'est ça? La tête qui est là, en fait, c'est la tête d'un masque. Tu vois, c'est un masque qui représente une tête humaine, mais en fait, c'est juste un masque. On pourrait le prendre dans la main et puis le mettre sur notre visage. Et donc, ce masque, il représente le jeu, l'amusement, le plaisir de se déguiser. Voilà.
Mais c'est quel...
Ah, oh ben, je sais pas, c'est un personnage comme ça, peut-être pour rigoler un peu, parce qu'il a des traits un peu marqués, des traits un peu marrants, non? Ça t'amuserait de porter ce masque, toi?
Non.
Ah. Il fait un peu peur aussi, comme
ouais,
ça.
Ouais, il fait un peu peur, je suis d'accord aussi. Ouais, ok. Donc, en tout cas, Hermione, pour répondre à votre question, on va dans les écoles et on va dans des lieux culturels, des bibliothèques, le Collège des Bernardins, l'Opéra Comique, tout bientôt le Théâtre de la Colline. Donc, voilà, pas mal d'occasions de nous retrouver avec grand, grand, grand plaisir. Tout le calendrier des ateliers est sur le site internet littleio.com. Et puis, on a aussi des ateliers qui peuvent être faits à la maison, clé en main, avec un produit qui s'appelle un kit, qui est un genre de livre numérique qui permet justement d'accéder à tous ces contenus et de découvrir les œuvres d'art et les mythes.
Sans vous, là, du coup.
Sans moi, mais avec du clé en main pour les parents. C'est-à-dire qu'on découvre ensemble et ça permet de cheminer comme ça dans l'histoire et de tout comprendre.
Voilà. On en choisit un, du coup?
On en choisit un. Pour le moment, Prométhée est disponible, Héraclès aussi, d'accord. Cléopâtre, et bientôt un kit sur le voyage dans la Lune.
Parfait. Et donc, si certains veulent voir une version plus complète de l'atelier qu'on vient de mener ensemble à la radio, vous pouvez retrouver Joséphine. Ce sera vous au Collège des Bernardins le 22 mai?
Oui, tout à fait.
Parfait.
Absolument.
Donc, le 22 mai à 15h.
Oui.
Vous pouvez...
Et là, les réservations sont sur le site des Bernardins, sur le site du Collège des Bernardins.
De toute façon, tout est effectivement indiqué sur votre site littleio.com. Pour terminer, pourquoi Little.io, ce nom, Joséphine? Évidemment, ça, je ne peux m'empêcher de vous poser la question.
J'imagine. Eh bien, justement, parce que plus grand monde aujourd'hui ne connaît Io, qui était une nymphe, c'est-à-dire une jeune déesse ravissante dont Zeus est tombé amoureux et qui a vécu des aventures incroyables dont on parlera peut-être une autre fois. Et à la fin de cette aventure, Io a traversé une mer qui a pris son nom et qu'on appelle la mer Ionienne, dont vous avez sûrement entendu parler si vous connaissez la Grèce. Et puis Io, c'est aussi le nom d'un satellite de la planète Jupiter, puisque donc elle lui tourne autour comme ça indéfiniment et pour l'éternité. Voilà.
Eh ben voilà, on a la clé de cette question que je me posais en tout cas. Merci beaucoup à tous, merci les enfants d'avoir participé, d'avoir posé plein de questions très pertinentes. Merci pour vos réponses et vos éclairages, Joséphine. On va se quitter avec un nouvel épisode de La mythologie grecque, notre feuilleton en podcast. Et moi, je vous retrouve pour notre prochaine émission le 15 mai, toujours à 18h. À très bientôt et merci encore.
Merci.
La mythologie grecque.
Texte, Armand Aloyen. Musique et réalisation sonore, Olivier Raymond.
Επιστροφή στον Όλυμπο.
Oui, ça s'est passé comme ça.
Qui est-ce qui parle ?
Héraclès.
Il est là ?
Bien sûr.
Sur l'Olympe ?
Il y vit désormais. Il y a épousé Hébé, la jeunesse éternelle.
Et il nous écoute ? Depuis le début ?
Évidemment. Héraclès.
Père.
Viens t'asseoir à côté de moi. Qui racontera le mieux Héraclès ? Sinon, Héraclès lui-même.
Ah oui, ça c'est super.
Tu n'es pas un bavard, Héraclès. Mais ce soir seulement, exceptionnellement, puisque tous les dieux et les déesses sont rassemblés sur l'Olympe autour du banquet éternel, je te le demande, Héraclès, raconte-nous ton histoire.
Ayant entendu la pitié de l'oracle de Delphes, j'allais m'agenouiller au pied du trône d'Eurysthée. Eurysthée, celui-là même qui était devenu roi d'Argolide à ma place parce qu'il était né quelques minutes avant moi.
Πρώτος άθλος, το λιοντάρι της Νεμαίας.
Je viens me soumettre à toi, Eurysthée.
Je sais. On m'a prévenu de ta venue, le très fort Alcide.
Héraclès.
Tu as changé de nom ? Amusant.
Que dois-je faire ?
Eh bien, il y a un lion au sud de l'Argolide, près de la ville de Némée. Tu en as entendu parler, peut-être ?
Non.
Tant mieux. Eh bien, va tuer ce lion.
Et après ?
Et après. Après, on verra. Tu as entendu, fidèle conseiller ? Et après. De toute évidence, il n'a jamais entendu parler du lion de Némée.
Il va se faire dévorer.
Comme les autres. Je ne l'avais jamais vu. Il a l'air assez simple.
La rumeur dit qu'il est devenu fou, Majesté.
Je n'ai pas remarqué. Son visage de rusto est si peu expressif.
Il a tué sa femme et aurait mangé ses enfants.
Mangé ?
De source sûre, Majesté, de source sûre.
Aujourd'hui, c'est un lion qui va le manger.
Excellent, Majesté, excellent.
J'arrive aux portes de la ville de Némée, au sud de l'Argolide. Je questionne une paysanne. Bonjour à toi.
Bonjour à toi, guerrier.
As-tu entendu parler d'un lion ?
Le lion ? Évidemment.
Tu l'as déjà vu ?
Non, certes non. Mon homme a rencontré un homme qui l'aurait regardé dévorer un bœuf en un seul repas.
Baliverne. Femme, indique-moi seulement où diriger mes pas.
Tu veux tuer le lion ?
Ce ne sera pas le premier.
Dirige-toi vers l'étang de Némée. Il vient s'y désaltérer certains soirs.
Merci.
Ne me remercie pas. Tu marches vers la mort, guerrier. Vers la mort.
Du soleil, je me poste au bord de l'étang. On m'a certifié que la bête vient s'y désaltérer. Je reste accroupi sans bouger. Je prends garde que le vent ne porte pas mon odeur. Je reste immobile. Plusieurs fois, une présence s'approche. Je tressaille, prêt à bondir. Un animal qui vient furtivement boire. Mais pas de lion. La nuit passe. Les lueurs du jour apparaissent. Le sol se met à bouger. Comme si un éléphant de Lydie s'avançait. Je relève la tête. C'est un lion. Un lion géant. 3 fois plus gros que la normale. Je prends une flèche. La cale contre le bois de mon arc et la décoche. Le lion relève sa gueule de la surface de l'eau. Ma flèche a bien atteint sa poitrine, mais sans pénétrer. Son cuir est invulnérable. Le lion regarde dans ma direction. Je vise la tête. Ma flèche touche le crâne et retombe au sol. Le lion a bondi. Sa gueule est grande ouverte. Une porte sur la mort. Un homme pourrait s'asseoir dans cette gueule. Je saisis ma massue. Le lion s'abat en même temps que j'abats ma massue sur son crâne. Et ma massue se brise en deux. Et le lion est seulement étourdi. Alors, sans réfléchir, je me jette sur lui. Nous roulons tous deux dans la poussière. Je parviens en me contorsionnant à passer sur son dos. Mes cuisses resserrent sa croupe. Mes bras attrapent sa gorge. Le lion gigantesque se débat furieusement. Je ne lâche pas. Je l'étreins. Je deviens un étau vivant. Ces minutes sont gravées à jamais dans la mémoire de mon corps. Dieu apparaît. Il est magnifique. Il porte un arc d'argent sur le côté et un autre dans sa main tendue. Il me regarde. Il sourit. Apollon.
Salut à toi, Héraclès. Zeus m'a demandé de te fabriquer un arc identique au mien.
Identique au tien ?
Seules mes flèches pouvaient traverser le cuir du lion de Némée. Mais je vois que j'arrive un instant trop tard.
J'ai tué le lion à main nue.
C'est un exploit.
Il me tend l'arc et un carquois rempli de flèches. Merci, Apollon.
Prends la peau du lion, Héraclès. Elle te rendra invincible.
Tel fut mon premier travail, mais le travail qui suivit fut bien plus impossible encore.
Quand le soleil fut couché, par la volonté. Hercule revint la nuit, portant la peau du lion sur sa poitrine d'homme.
Parti pour la Colchide, aux côtés du puissant Jason, qui a pris l'art d'être invincible par les conseils d'Amphitryon. Étranglais Erginos et qui aimait en une nuit les 50 filles du roi.